Cube Radio, Cube Radio. Il baigne dans l'actualité. Il a des points de vue rafraîchissants. Vous écoutez Vincent Desseaux.
Est-ce que vous avez déjà appelé l'ambulance? C'est toujours une expérience généralement assez... Enfin, qu'on veut vivre le moins possible. Mais certaines personnes appellent les ambulanciers pour des raisons assez loufoques. Parfois, vous avez peut-être vu cet article dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, hier. Concernant Urgence Santé, qui reçoit un nombre impressionnant de demandes non urgentes chaque jour à Montréal et Laval, des demandes parfois même farfelues. Et on comprend que le système est engorgé en ce moment. Certaines personnes pensent que on va peut-être se sauver de la file, on va arriver VIP à l'hôpital, pour n'importe quel petit problème, on va appeler l'ambulance. Malheureusement, ça cause des retards pour d'autres patients beaucoup plus sévères, ceux-là. On en parle avec le porte-parole corporatif à Urgence Santé, Jean-Pierre Rouleau. Monsieur Rouleau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Desureau.
C'est pas un phénomène nouveau. Je pense que tous les ambulanciers auront une longue liste d'anecdotes, d'appels loufoques. Mais pour vous, c'est un boulet au pied au quotidien.
Mais d'abord, je vous remercie de me donner ce temps d'antenne là pour pouvoir en discuter.
Ça fait plaisir.
Ce qui est important de savoir, c'est qu'Urgence Santé dessert une population qui est très variée. Urgence Santé reçoit à travers, via le 911, plus de 1000 appels par jour, ce qui est quand même considérable. Donc, il n'est pas impossible que parmi ces 1000 appels-là, certains soient un petit peu plus, pour reprendre vos mots, un petit peu plus loufoques ou un petit peu plus anecdotiques. Effectivement, ça peut arriver.
L'histoire à la base de la file, là, ça je pense ça fait quand même longtemps que c'est plus le cas. Quelqu'un qui dit moi je veux pas attendre à l'urgence, mais arriver en ambulance c'est comme une limousine aux Oscars, ça fonctionne pas comme ça.
Absolument pas. Merci d'en parler. C'est tout à fait faux. C'est une fausse croyance que d'arriver en ambulance, ça passe plus vite dans un centre hospitalier. Lorsque les paramédics arrivent à l'hôpital, ils rencontrent exactement la même personne que si le patient arrivait à pied ou avec de la famille. C'est-à-dire que cette personne-là, le patient voit l'infirmière au triage, l'infirmière évalue le patient, lui assigne une priorité et c'est ça qui va déterminer à quelle vitesse le patient va être vu par le médecin de l'urgence. Donc, c'est tout à fait faux. Il faut casser cette croyance-là, là, que ça passe plus vite en ambulance.
Et est-ce que vous êtes souvent, pour des cas non urgents, coincé avec le patient là, sur civière à attendre justement longtemps le triage? Est-ce qu'à partir du triage, vous remettez la personne sur une chaise dans la salle d'attente puis vous partez? Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps, ce genre d'appel-là?
Il est clair que par moment, on a de longs délais d'attente en salle d'urgence parce qu'on le sait, le taux d'occupation dans les salles d'urgence est important. Donc souvent, c'est les paramédics qui en paient le prix, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils sont en attente, ils attendent d'être triés. Une fois triés, il arrive également souvent qu'ils sont en attente d'une civière. Donc le temps passé en centre hospitalier fait en sorte que c'est une ambulance de moins ou des ambulances de moins sur le territoire pour supporter l'offre populationnelle. Donc les gens, lorsque les paramédics sont en salle d'urgence et ils attendent, c'est pas en notre faveur, disons ça comme ça.
Je voyais dans l'article l'histoire de, par exemple, là, être appelé pour changer les piles d'une manette de télévision. Là. Mais on comprend que dans des cas comme ça, c'est probablement des cas de santé mentale, un peu, Monsieur Rouleau. Donc c'est des cas qui sont super légers en termes d'urgence, mais qui peuvent être plus lourds aussi quand même à gérer parce que c'est une problématique plus profonde.
Vous savez, lorsque l'appel est acheminé à Urgence Santé vers les services préhospitaliers d'urgence via le 911, nos répondants médicaux d'urgence, eux, évaluent la situation, mais par voie téléphonique. Donc, posent une certaine quantité de questions, sont régis par un protocole qui est très sensible, donc qui prend très peu de risques. Alors, la priorité, ou du moins l'envoi ou la non-envoi d'une ressource ambulancière est basée sur les réponses qu'eux obtiennent. Donc, il est probable qu'il y ait une différence entre l'évaluation que le répondant médical d'urgence a fait et ce que constatent les paramédics lorsqu'ils arrivent sur les lieux.
Est-ce que, parce que vous voyez assurément des fois des patients qui ont une tolérance à la douleur puis extrême, puis qui se plaignent pas, puis tout ça, puis vous avez des grands brailleurs, est-ce que vous en avez qui appellent parce qu'ils ont une écharde, puis que là, c'est le grand drame, puis que là, des fois, vous dites, ouais, là, vous auriez pu vous rendre à pied à l'hôpital, monsieur ou madame?
Sur 1000 interventions par jour, on a de tout. On a des gens qui n'appellent pas, qui devraient appeler, et des gens... En fait, les gens appellent souvent parce qu'ils ont un besoin. Ok, si on part de ce principe-là, les gens ont un besoin. Mais est-ce que de faire affaire avec les services préhospitaliers d'urgence est le bon service pour ce besoin-là? Il y a d'autres types de services qu'offre le Québec, notamment le 8-1-1. Souvent, les gens font le 9-1-1 uniquement pour avoir une information d'ordre médical, alors que le 8-1-1 est là pour ça. Si les gens ont des questions, on les invite à faire le 8-1-1, parler avec une infirmière, qui va être en mesure de leur donner des conseils d'usage. Une autre chose qui est méconnue du public, le 211, qui est un centre de référence communautaire et sociale. Souvent, les gens ont une question, des problèmes alimentaires, proche aidant, problèmes de dépendance, parce que les gens ignorent les autres services, ils communiquent à Urgence Santé via le 911, ce qui n'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Et souvent, ces appels-là viennent mettre une pression importante sur notre service, tant au niveau des RMU qui sont appelés à répondre à plus d'appels. La même chose pour nos paramédics, où ils sont appelés à être déployés sur davantage d'appels dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ce qui rend la chose encore plus complexe. Nos gens sont fatigués, les gens sortent de pandémie, beaucoup de pression sur nos employés. Alors, lorsque les gens peuvent utiliser les services alternatifs, ben c'est sûr que ça vient réduire la pression là au niveau de nos opérations à nous chez Urgence Santé.
Vous faites quoi avec ceux qui appellent pour de mauvaises raisons, à répétition? Je me souviens d'une histoire à Québec, là, un ambulancier qui me racontait, disons, on a un couple qui va dans des restaurants, se monte une grosse facture, puis après ça, là, la madame, elle tombe dans les pommes, puis là, il faut appeler l'ambulance, puis ils partent sans payer. Il dit, ils font ça souvent, mais chaque fois que tu appelles le 911, nous, on peut pas dire, ben non, pas elle, parce que ça se peut que cette fois-là, elle soit malade. Vous faites quoi dans des cas d'appel à répétition qui sont non fondés?
Ben pour nous, c'est souvent il y a une détresse derrière ça. Hein. Donc on tente de faire du référencement, c'est-à-dire qu'on tente de mettre à contribution les différents programmes sociaux qui pourraient venir en aide à ces personnes-là. Nous, de notre côté, à nous, il y a eu un appel au 911. L'appel est dirigé lorsqu'il s'agit d'une intervention pour problème médical. L'appel est dirigé vers Urgence Santé pour le cas de Montréal et Laval. Nous, on intervient et les paramédics ne peuvent pas décider s'il y a transport ou pas. Les paramédics ne peuvent pas décider de laisser quelqu'un sur place. Nous, on est obligé de transporter vers une salle d'urgence. Mais est-ce que c'est une salle d'urgence dont le patient a besoin? On peut se poser la question.
Et dans le cas, par exemple, quelqu'un qui se fait transporter pour une égratignure, là, ça saigne pas. Est-ce que vous avez, lorsque vous allez porter cette personne-là, besoin aussi de désinfecter? Vous savez, de la désinfection des véhicules, c'est quand même long et complexe. Là, vous avez un temps, vous ne pouvez pas aller plus vite que la désinfection se fait. Est-ce que vous devez passer par ce processus-là, peu importe l'appel?
Absolument. Entre chaque patient, le module de soins, donc le véhicule ambulancier, le module de soins plus précisément, doit être décontaminé. On ne sait pas si la personne qui, même si c'était pour une blessure mineure, avait une maladie quelconque. Donc, entre chacune des interventions, les paramédics désinfectent leur véhicule.
Puis, il y a comme un temps limite, je ne me trompe pas, vous mettez le produit, il faut attendre un certain temps. Vous ne pouvez pas aller plus vite que le produit.
Non, effectivement, il faut que le produit ait le temps d'agir, mais on a les produits qu'il faut là, pour tuer l'ensemble des bactéries qu'on pourrait rencontrer là, lors de nos interventions.
Mmh. Bon, mais on va souhaiter que les gens appellent au 811 avant tout, se fassent diriger vers la bonne ressource plutôt que d'appeler inutilement au 911.
Mais exactement, si je peux utiliser votre micro là pour rappeler à vos auditeurs que lorsque votre appel n'est pas urgent, c'est-à-dire lorsque votre situation n'est pas urgente, on vous invite vraiment à communiquer avec le 811 pour avoir des conseils d'usage. Si vous pouvez également vous diriger par vous-même vers un centre hospitalier ou vers une clinique, si votre état ne requiert pas une ambulance, vous êtes en mesure de vous déplacer, on vous invite à le faire. Comme je vous ai dit un petit peu plus tôt dans l'entrevue, nous, ça réduit la pression, à ce moment-là, on devient encore plus performant pour les appels urgents. Un véhicule ambulancier qui est occupé sur une intervention qui ne nécessite pas une ambulance, ben c'est un véhicule ambulancier qui est non disponible pour répondre à quelqu'un qui est dans une réelle détresse. stress.
Mmh. Et avez-vous une pénurie d'employés? Comment va l'état des forces en ce moment à l'urgence santé?
Les gens sont fatigués, les gens tiennent bon. Je les remercie d'ailleurs, tant les répondants médicaux d'urgence que les paramédics. Ils travaillent fort. La pénurie de main-d'œuvre demeure réelle, donc c'est un problème avec lequel l'urgence santé doit conjuguer quotidiennement. On en a encore pour probablement plusieurs semaines. C'est difficile d'engager. C'est difficile d'engager actuellement. On avait une vision là, d'engager plus de 100 paramédics et actuellement, il y en a une vingtaine qui sont en processus d'embauche et donc on est en déficit là, d'environ 80 paramédics sur le nombre qu'on voulait embaucher. C'est en partie multifactoriel, c'est en partie attribuable là, au nombre de gens qui sortent de l'école avec un diplôme en poche. Les employeurs s'arrachent les employés, donc ça rend la tâche plus difficile.
Ben, le message est lancé. Ben, on vous salue, M. Rouleux, vos collègues chez Urgence Santé qui sont extrêmement importants dans toute cette chaîne-là de notre système de santé, trop souvent oublié. Merci d'avoir été là, M. Rouleux.
Ben, merci à vous, M. Dessureau, au plaisir.
Au revoir.